des femmes écrivains. Une chronique de Jean Mauduit sur Canal Académie.
Jean Mauduit, bonjour.
Bonjour.
Pour cette deuxième chronique sur les femmes écrivains, vous avez choisi Madame de Lafayette. Pourquoi ce choix de Madame de Lafayette ?
Tout simplement parce que La Princesse de Clèves, son œuvre majeure, est le premier en date de ce qu'on pourrait appeler les romans psychologiques. C'est l'œuvre mère d'une grande tradition littéraire. Et puis parce que c'est un pur chef-d'œuvre, probablement unique en son genre.
Nous reviendrons plus tard sur l'appellation roman psychologique ou plutôt roman d'histoire.
Oui.
Est-on certain que Madame de Lafayette a écrit La Princesse de Clèves ? C'est quand même la première question. Et est-il exact que La Princesse de Clèves a paru sous le couvert de l'anonymat la première fois ?
On est tout à fait certain que le livre est de la plume de Madame de Lafayette. Mais il est exact qu'il a été publié sans nom d'auteur, avec cette note liminaire de libraire et ses lecteurs. Quelque approbation qu'ait eue cette histoire dans les lectures qu'on en a faites, l'auteur n'a pu se résoudre à se déclarer. Il a craint que son nom ne diminuât le succès de son livre.
Alors pourquoi ?
C'était tout simplement de la prudence, non, pas de la fausse modestie comme on pourrait le croire, même si peut-être il y en avait un petit soupçon. C'était surtout de la prudence, c'était le désir de protéger son nom, qui était quand même celui d'une des grandes familles de France, au cas où cette œuvre, qui était forte, neuve, aurait fait scandale, et nous verrons qu'il y avait un peu de quoi. Alors naturellement, chacun s'interrogeait sur l'identité de l'auteur.
Quand vous parlez de chacun, ça veut dire que ce livre était distribué largement à l'époque ? Il a connu un succès ?
Distribué, c'est un mot qui n'a pas beaucoup de sens pour l'époque, mais les romans, les livres de toute nature qui paraissaient étaient, comme vous le savez, édités par des libraires, des boutiques de librairie qui effectivement diffusaient leurs œuvres. Pas un très grand public, mais un public généralement fidèle, de connaisseurs. Et en ce qui concerne La Princesse de Clèves, on en a tout de suite beaucoup parlé à la cour et dans les salons littéraires, et d'autant plus qu'on essayait de deviner qui pouvait bien l'avoir écrit.
Ah, l'énigme. Et qui désignait-on le plus souvent ?
Eh bien, La Rochefoucauld, le La Rochefoucauld des Maximes, avait les faveurs d'un certain nombre de parieurs. Tantôt, on pensait au poète et romancier Segret, et tantôt à Madame de Lafayette elle-même, qui niait, avec une entière bonne foi, une entière mauvaise foi plutôt. Elle a quand même fini par avouer la vérité à son grand ami Ménage, qui est un des poètes précieux que Molière a moqué, mais un grammairien important, qui est en fait à l'origine du premier grand dictionnaire étymologique de la langue française.
Alors, est-ce qu'on peut s'interroger sur le fait que ce soit une femme qui écrive ? Vous disiez vous-même que les deux autres hypothèses étaient des hommes. Est-ce que c'était donc inhabituel pour des femmes d'écrire à cette époque ?
Inhabituel, non. Il faut tout de même rappeler que beaucoup de nos grands écrivains, et parmi les plus grands, sont des femmes. Bon, sans empiler les noms Christine de Pisan, tout de même, au XVe siècle, Marguerite de Navarre, au XVIe. Elle était, je le rappelle, la sœur de François Ier. Et puis la célèbre Louise Labbé, la belle lyonnaise, brûlante, aussi brûlante que belle, qui a vécu entre 1526 et 1556. Et puis donc Madame de Lafayette, sans parler de Madame de Sévigné, qui couvre pratiquement... qui couvre la plus grande partie du XVIIe siècle. Mais ces grandes dames de la plume restent tout de même une minorité face au bataillon d'écrivains hommes.
Alors, qui était donc cette Madame de Lafayette pour oser prendre la plume et oser être publiée ?
Alors, elle s'appelle de son nom de jeune fille Marie-Madeleine Pioche de Lavergne. Elle est née en 1634, c'est-à-dire sous le règne de Louis XIII, alors que Richelieu est revenu déjà au pouvoir. C'est 4 ans avant la naissance de Louis XIV. Elle épouse à 21 ans le comte de Lafayette, et elle en a 25 quand elle vient s'installer à Paris dans un hôtel particulier de la rue de Vaugirard, seule, parce que son mari est retenu dans ses terres d'Auvergne par des procès qui n'en finissent pas. Elle a 44 ans lorsque paraît la princesse de Clèves, en 1678 donc. Elle fréquente depuis son arrivée à Paris les salons précieux, et elle passe elle-même pour une précieuse de grande envergure, au point que certains auteurs voient en elle une des femmes savantes que Molière, bientôt, va accabler de ses railleries. Mais son œuvre n'a rien de précieux ni de pédant.
Vous parliez un peu plus tôt de romans psychologiques. Que peut-on dire de la psychologie de Madame de Lafayette ? Qui était-elle pour avoir l'audace de prendre la plume alors qu'elle est une femme ? Et je crois qu'on l'a plutôt décrit, par ailleurs dans des documents historiques, comme une femme plutôt raisonnable, comme une femme plutôt empreinte de sagesse. Et dans ce livre, on parle beaucoup de passion. Est-ce que Madame de Lafayette, c'est un peu Madame la princesse de Clèves ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, il y a beaucoup de questions en une. D'abord, vous essayez de me faire avouer que ce n'est pas très sérieux, ni très raisonnable, ni très sage d'écrire, de prendre la plume. Je ne serais pas forcément d'accord. Ensuite, je confirme que Madame de Lafayette est une grande dame soucieuse de son rang. L'anonymat qu'elle a choisi en témoigne, encore une fois. Et je la crois parfaitement capable de maîtriser ses passions si elle en a, ce que j'ignore. Mais c'est aussi une précieuse, ne l'oublions pas, qui est quand même profondément marquée par ce bouillonnement incessant des salons littéraires animés par des femmes, il faut le souligner. Alors votre remarque, par ailleurs, pose un problème éternel, qui est celui de la création. C'est au fond le paradoxe du comédien appliqué à l'écriture. Est-ce qu'il faut être passionné soi-même pour traiter de la passion ? Vaste problème, je serais prudent, je ne répondrai pas encore que j'ai tendance à penser qu'on peut parfaitement faire semblant, au risque de vous choquer.
Alors, vous parlez de La princesse de Clèves comme étant un roman novateur à l'époque, comme un tournant dans la littérature. Qu'est-ce qu'il y a de novateur dans ce roman, qui parle surtout des amours de cour ? Est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de romans d'amour courtois à l'époque ?
Oui, amour courtois, le mot n'est plus tout à fait de mise. Amour courtois renvoie à une époque beaucoup plus lointaine, le Moyen-Âge. Mais en revanche, vous avez raison, on peut dire que le XVIIe fourmille d'œuvres romanesques. Il en paraît jusqu'à 60 par an. Ça peut paraître dérisoire par comparaison avec les 700 volumes et davantage, je crois, de nos saisons littéraires d'aujourd'hui. Je plains les critiques littéraires. Mais 60 pour l'époque, c'est beaucoup. Alors, si on veut maintenant parler des genres, il y a le roman pastoral, qui n'est pas tout à fait le roman d'amour courtois, avec une espèce de phénomène qui est l'astrée d'Honoré d'Urfé, dont les héros sont des bergers et des bergères qui gardent leurs brebis ou leurs moutons et qui, pendant des milliers de pages, des milliers, s'entretiennent uniquement d'amour. Mais bien entendu, ils ne le font pas, parce qu'ils sont beaucoup trop occupés à en parler. Puis il y a le roman sentimental, début du siècle, qui lui exploite déjà le thème des amours contrariés. Bon, ce sont de lointains précurseurs de Madame de Lafayette, mais il y manque l'essentiel. Et puis la France entre en guerre, la guerre de 30 ans, l'atmosphère se met à sentir la poudre, les écrivains de tout temps sont réceptifs, alors on va voir apparaître le roman héroïque, dont les auteurs s'appellent tantôt Gomberville, La Calprenède, Scudéry, bien d'autres. Et ces auteurs comptent les exploits de héros fabuleux, empruntés à l'Antiquité, mais sous lesquels le lecteur n'a pas de peine à reconnaître les personnages de l'époque. En particulier, le grand Condé est omniprésent dans ce genre, sous différents déguisements, est omniprésent dans ses romans. Et puis enfin, il y a la naissance du roman historique qui situe l'action, lui, dans un cadre emprunté à l'histoire.
Alors, La princesse de Clèves, ni roman historique, ni roman d'amour galant, qu'est-ce qui en fait le caractère unique ?
Ce qui en fait le caractère unique, roman historique, on l'a souvent appelé roman historique, personnellement je ne suis pas entièrement d'accord, parce que ce n'est pas ça l'important. L'important, et c'est la réponse à votre question, c'est l'irruption dans notre littérature de la passion à l'état pur. La passion qui coupe le souffle, qui noue la gorge, qui vous met les jambes au coton, qui envahit l'esprit, qui torture le cœur, qui fait le siège de vos nuits, qui fait basculer une vie en quelques instants, qui est capable de tout balayer sur son passage, la famille, les amitiés, le statut social, et une passion sans remède. C'est la première fois que la passion apparaît dans cette cruauté, je dirais.
Est-ce qu'on est déjà aux portes du romantisme ? Ou est-ce que c'est trop tôt pour en parler ?
Non, parce que le romantisme joue avec des rêves. Bon, il y a de la passion dans le romantisme, elle est quand même beaucoup teintée de littérature, de posture. On pianote, je dirais, sur des douleurs ou des nostalgies. Alors qu'ici, chez Madame de Lafayette, nous sommes dans le jardin des dieux mauvais, sous le signe d'un destin qui est écrit à l'avance, comme dans les tragédies. Antoine Adam l'a dit dans sa très bonne préface de l'édition de la Pléiade, « Rien ne peut empêcher la princesse de Clèves de s'éprendre follement du prince de Nemours. Pourtant, elle est mariée, elle a une position à la cour, c'est une femme qu'on admire autant pour sa vertu que pour sa beauté. Eh bien, elle est emportée vers le prince de Nemours par quelque chose de plus fort qu'elle, qui relève en effet du destin ou de la fatalité. Elle n'est pas libre non plus d'aimer son mari, à qui elle témoigne pourtant une tendresse profonde et désolée quand elle prend conscience de ce qui lui arrive. C'est une honnête femme emportée par la passion devant un mari qu'elle aime. Au surplus, elle ne fait pas beaucoup d'illusions sur celui qu'elle aime, sur Nemours. Il a la réputation d'un homme à qui peu de vertu résiste. Elle sait qu'il est volage. Elle se doute que si jamais elle lui cédait, elle aurait vite fait de prendre rang dans les souvenirs qu'on effeuille quand on est un homme de bonne fortune. Donc elle ne va pas lui céder. Et finalement, il s'agit d'une passion maîtrisée, d'un amour absolu, mais qui doute de l'amour.
Alors, est-ce un roman qui fait l'éloge de la prudence ? Est-ce que c'est un roman de vertu religieuse ? Comment vous le voyez ?
Ah oui, ça pose la question de savoir pourquoi elle résiste à l'amour. Non, c'est pas par prudence, encore que, c'est sûrement pas par vertu, bien qu'elle soit vertueuse, et c'est pas par religion, il n'en est pas question du tout dans le roman. La princesse de Clèves, il faut se mettre dans la tête que ce n'est pas un roman moral. Je ne dis pas qu'il est immoral. C'est un roman sans morale. D'abord, dans la mesure où les raisons qui retiennent Madame de Clèves au bord, disons, du gouffre, ou de la défaite, ou du lit, comme on voudra, sont d'ordre social, on pourrait même dire sociétal, fondé sur le sentiment de grandeur qu'elle a de ce qu'elle est, de sa famille, de son rang. Et là, on se rappelle tout à coup que Madame de Lafayette est quelqu'un qui appartient à la haute noblesse.
Ce qui était la convention à l'époque, c'est un peu conventionnel.
Alors effectivement, si ça n'était que ça, ce serait conventionnel, ce serait banal. Mais c'est sans compter avec le mécanisme implacable de la passion. Je vous l'ai dit sous une autre forme, le fatum, l'ananké, est en route. Et c'est justement parce que la princesse a d'elle-même une haute opinion qu'elle n'envisage pas un seul moment l'adultère, mais même il lui est impossible de cacher à son mari l'inclination violente qui l'entraîne vers Nemours. Elle va donc la lui confesser. C'est ça qui devient tout à fait original et plus que ça. Par loyauté, par sentiment du devoir, parce que c'est une façon aussi de se remettre entre les mains de son époux, de lui dire « Veille sur moi, je ne suis pas assez forte pour résister. » Seulement voilà, le prince de Clèves est follement jaloux. Et il pourrait prendre l'aveu qu'on lui fait comme une preuve de transparence. C'est pas du tout ça. Au contraire, il se dit que si elle en a révélé un peu, c'est qu'elle en a beaucoup à se reprocher. Vous savez bien que les hommes sont comme ça, les jaloux en tout cas. Donc il va être en proie à une espèce de paranoïa, il va délirer. Et comme c'est un être de complexion faible, physiquement parlant, il va tomber malade et il va mourir de l'amour de sa femme. Mourir d'amour, mais pas le sien, celui que sa femme porte à un autre.
Donc le roman peut basculer dans l'amour libre tel qu'on l'entend aujourd'hui ?
Alors, si c'était écrit aujourd'hui, peut-être, mais avec Madame de Lafayette, justement pas. Et c'est là qu'est tout le talent, pour ne pas dire le génie de cette personne, c'est que c'est son aveu, c'est-à-dire l'acte de loyauté qu'elle a commis, qui va causer le malheur du prince, de son mari, et qui va causer sa mort. Elle en est responsable. Et en faisant cet aveu, elle a creusé un abîme infranchissable entre elle et son amour. Elle ne peut évidemment pas s'abandonner à la passion qui l'obsède avec ce remords. Elle aurait l'impression d'avoir commis un crime. Donc elle ne reverra jamais Nemours. Elle finira sa vie dans les œuvres pieuses. Et Nemours lui-même, qui est rattrapé à son tour par cette extraordinaire mécanique des passions, n'est plus tout à fait l'homme volage qu'il était. Il va rester fidèle au souvenir de la princesse de Clèves. Si bien que ce n'est pas une, mais deux, mais trois vies qui sont ruinées par la passion. Et ce n'est pas le péché de Madame de Clèves qui attire le malheur, c'est son innocence. C'est là que le roman est amoral, pour ne pas dire davantage. C'est le fait qu'elle ait cru devoir ne rien cacher à son mari des sentiments qu'il agitait. Elle est coupable de son innocence. Elle est punie pour sa pureté, pour sa grande loyauté. Et vous voyez bien que ce roman n'a rien de moral. C'est pas du tout Corneille, comme on pourrait croire. C'est Racine, dans ce qu'il a de noir. Mais à mes yeux, et je suis pas le seul, c'est un chef-d'œuvre absolu, ou presque.
Alors qu'est-ce qui manque pour que ce soit un chef-d'œuvre absolu ?
Un chef-d'œuvre absolu, c'est un objet à quoi on ne peut rien retrancher ni ajouter. Or, il y a dans La Princesse de Clèves un préambule historique
qui est un peu long.
Qui n'est pas le meilleur de l'œuvre, qui est un peu laborieux. Madame de Lafayette s'y donne beaucoup de mal pour situer l'action sous le règne d'Henri II, le roi des Buffets, vous savez, là, Buffet Henri II, à travers une compilation très très sérieuse, très fouillée des historiens de ce temps-là, alors qu'il est clair que ces personnages sont des contemporains. Et certains exégètes ont même rapproché l'aventure de la princesse de Clèves de celle qu'a connue Madame de Montespan, qui a fait confidence, paraît-il, à son mari, de ce que le roi Louis XIV la pourchassait, de son désir et de ce qu'elle en était, disons, émue. La conclusion de l'affaire était toute différente, comme on sait, pour Madame de Montespan, de ce qu'elle a été pour la princesse de Clèves.
Alors, en quoi est-ce que La Princesse de Clèves est un roman historique ? En quoi est-ce que ça fait des clins d'œil à ce qui se passait à l'époque ?
Alors, c'est tout de même un roman historique, même si je trouve, je persiste à dire que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux dans l'œuvre, dans la mesure où Madame de Lafayette a trouvé ses personnages dans l'histoire. Nemours a existé, Madame de Lafayette en a trouvé le portrait peint à la sanguine dans Brantôme. Et dans Brantôme aussi, l'amour qu'il a développé, ce Nemours, le vrai, pour la femme du prince de Guise. Quant au prince de Clèves, il a existé aussi, mais à l'époque où se situe le récit, il a 14 ans, sous Henri II. Bon, on est donc bien dans l'histoire, même si, comme tout bon romancier historique, Madame de Lafayette l'arrange un peu. Mais, comme tout bon romancier historique aussi, elle a brouillé les pistes. Et au dire de ses contemporains, enfin sous ses personnages historiques officiels, elle fait allusion, comme d'ailleurs dans son précédent roman « La princesse de Montpensier », elle fait allusion aux amours tumultueuses d'Henriette d'Angleterre, la fille de la reine d'Angleterre, Henriette, pour le duc de Guiche. C'est la grandeur et la faiblesse du roman historique que d'être forcément toujours un peu faussaire. Ce qui est sûr, c'est qu'en racontant cette histoire du siècle précédent, elle a dépeint avec une précision extraordinaire les mœurs et les mentalités de son siècle à elle. Sûr.
Il est donc faux de dire que c'est le premier roman historique ?
Non, pas tout à fait faux. Je trouve ça un peu réducteur, c'est tout. C'est un roman historique, mais c'est pas son côté historique qui fait sa grandeur.
Du point de vue de l'écriture, j'ai cru comprendre que Madame de Lafayette, enfin certains le disent, qu'elle n'a pas écrit ce roman seule, qu'il a été écrit en fait à deux mains. Qu'est-ce que vous en pensez ?
On l'a dit beaucoup, je ne le crois pas personnellement. Ça se saurait, ça se verrait. Ce que je crois, c'est qu'il est très possible qu'elle ait demandé conseil souvent pour des problèmes de style, de transition, de raccordement d'un chapitre à un autre ou d'un passage à un autre à son ami Ménage, dont déjà cité, dont elle appréciait beaucoup les conseils. À la limite, qu'importe, l'écriture de La Princesse de Clèves est magnifique. que le lecteur d'aujourd'hui ne s'attende pas à se sentir à l'aise, parce que nous sommes habitués, nous avons les sens un peu usés par l'excès de couleurs, de sensations, d'impressions, de violence et d'impudeur, il faut bien le dire, dont les romanciers d'aujourd'hui nous abreuvent. Bon. Ici, il n'y a rien de tel, c'est le grand style du grand siècle, c'est une écriture imperceptiblement hautaine qui dit tout en peu de mots et qui pratique l'art de la litote avec une maîtrise incroyable. Bref, c'est un style qui permet à la mécanique des passions d'apparaître à nu dans toute sa cruauté. Et je persiste, je signe, c'est très beau.
Est-ce que vous voudriez bien nous lire l'aveu de la princesse de Clèves?
Oui, avec...
auprès de son mari.
Plaisir, je regrette de n'avoir pas reçu une formation de comédien.
Mais si.
Eh bien, monsieur, lui répondit-elle, je vous passe les prémices. Eh bien, monsieur, lui répondit-elle en se jetant à ses genoux, je vais vous faire un aveu que l'on n'a jamais fait à son mari. Mais l'innocence de ma conduite et de mes intentions m'en donne la force. Il est vrai que j'ai des raisons de m'éloigner de la cour et que je veux éviter les périls où se trouvent quelquefois les personnes de mon âge. Je n'ai jamais donné nulle marque de faiblesse et je ne craindrais pas d'en laisser paraître si vous me laissiez la liberté de me retirer de la cour. Quelque dangereux que soit le parti que je le prends avec joie pour me conserver digne d'être à vous. Je vous demande 1000 pardons si j'ai des sentiments qui vous déplaisent. Du moins, je ne vous déplairai jamais par mes actions. Songez que pour faire ce que je fais, il faut avoir plus d'amitié et plus d'estime pour un mari que l'on n'en a jamais eu. Conduisez-moi, ayez pitié de moi, et aimez-moi encore si vous pouvez. » Monsieur de Clèves était demeuré pendant tout ce discours, la tête appuyée sur ses mains, hors de lui-même, et il n'avait pas songé à faire relever sa femme. Quand elle eut cessé de parler, qu'il jeta les yeux sur elle, qu'il la vit à ses genoux, le visage couvert de larmes, et d'une beauté si admirable, il pensa mourir de douleur. Et l'embrassant, en la relevant, « Ayez pitié de moi, vous-même, madame, dit-il, j'en suis digne. Et pardonnez si, dans les premiers moments d'une affliction aussi violente que la mienne, je ne réponds pas comme je dois à un procédé comme le vôtre. Vous me paraissez plus digne d'estime et d'admiration que tout ce que trouve le plus malheureux homme, que tout ce qu'il y ait eu jamais de femme au monde. Mais aussi, je me trouve le plus malheureux homme qui ait jamais été. Vous m'avez donné de la passion dès le premier moment que je vous ai vu. Vos rigueurs et votre possession n'ont pu l'éteindre. Elles durent encore. Je n'ai jamais pu vous donner de l'amour. Et je vois que vous craignez d'en avoir pour un autre. Et qui est-il, madame, cet homme heureux qui vous donne cette crainte? Depuis quand vous plaît-il? Qu'a-t-il fait pour vous plaire? Quel chemin a-t-il trouvé pour aller à votre cœur? Je m'étais consolé, en quelque sorte, de n'avoir pas touché par la pensée qu'il était incapable de l'être. Cependant, un autre fait ce que je n'ai pas pu faire. J'ai tout ensemble, la jalousie d'un mari et celle d'un amant. Mais il est impossible d'avoir celle d'un mari après un procédé comme le vôtre. Il est trop noble pour ne pas me donner une sûreté entière. Il me console même comme votre amant. La confiance et la sincérité que vous avez pour moi sont d'un prix infini. Vous m'estimez assez pour croire que je n'abuserai pas de cet aveu. Vous avez raison, madame, je n'en abuserai pas, et je ne vous en aimerai pas moins. Vous me rendez malheureux par la plus grande marque de fidélité que jamais une femme ait donnée à son mari. Mais, madame, achevez, et apprenez-moi qui est celui que vous voulez éviter. Je vous supplie de ne pas me le demander, répondit-elle. Je suis résolue de ne pas vous le dire, et je crois que la prudence ne veut pas que je vous le nomme.
Merci Jean Mauduit, merci pour cette lecture, merci pour cette analyse de La Princesse de Clèves.
Merci à vous.
Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes journaliste, écrivain, docteur ès lettres. Vous avez été secrétaire général adjoint de François, secrétaire général du mensuel Elle, et vous avez longtemps produit des émissions d'histoire à la télévision, d'où votre goût pour l'histoire, je m'en doute. Et puis vous avez occupé des responsabilités aux éditions Hachette, et vous êtes aujourd'hui consultant à Médiamétrie. Merci beaucoup. Jean Mauduit, quelle est la prochaine femme écrivain qui passe sous vos yeux?
Je n'ai pas encore arrêté mon choix, mais je suis tenté de le porter sur un roman qui a reçu le grand prix littéraire des lectrices de Elle, attribué, comme son nom l'indique, par un jury de lectrices, ce magazine qui m'est particulièrement cher, puisque j'y ai longtemps travaillé. Et pour une fois, le choix des lectrices m'étonne beaucoup même. C'est pourquoi je suis vraiment tenté d'aller voir avec vous, dans Tokyo, pourquoi, comment elles ont pu choisir cette œuvre.
Bon, nous ferons le pas entre le XVIIe siècle et le Tokyo d'aujourd'hui.
Voilà.
Merci Jean Mauduit, à bientôt.